Chers amis, soyez bénis. Soyez bénis, chers amis, que le Seigneur vous accorde de la stabilité dans l'âme, dans les pensées, dans les sentiments, qu'il vous protège au niveau de la santé, qu'il vous protège au niveau des relations, et ne vous laissez pas perturber. Cherchez la face de Dieu, lisez la parole de Dieu, levez-vous. Prenez la parole de Dieu, lisez-la, et vous résisterez à toutes les perturbations de l'âme qui arrivent, qui surviennent régulièrement. Dieu soit loué. Je vous salue sincèrement, de tout cœur. Voilà, je vais donner un petit compte rendu. Nous avons ici... 10 personnes ukrainiennes, et nous allons encore recevoir une dame et son enfant de 10 ans, parce que cette personne vient du nord de l'Allemagne, où elle était dans un milieu assez hostile. C'est pas toujours le cas, mais c'était son cas à elle. C'était assez meurtrissant, mal entourée là-bas, et elle vient, elle fait partie de la famille qui est chez nous. Elle est proche, parente, et donc voilà, ça fera 12. Dieu soit loué, nous avons tous de la bonne humeur, il y a beaucoup d'amour dans le cœur de ces personnes. Donc il y a actuellement 4 femmes adultes, et il y a de 22 à 52 ans, il y a un gamin de 11 ans, Maxime, et puis il y a 4 adolescentes et un petit bébé de 8 mois. Et nos amis Tamazi, Tamila, géorgiens, qui sont restés un an et demi chez nous, ces amis géorgiens qui ont été aussi des réfugiés, extrêmement, extrêmement meurtris d'avoir perdu leur patrie, boostés dehors par un Poutine, ou alors il fallait mourir. Ces amis géorgiens maintenant sont à Liège, tout près de Liège, à Jemmaine-sur-Meuse. Et ils travaillent tous les deux, et ils sont venus dire bonjour ici à ces personnes, puisqu'ils parlent russe, ils ont une langue en commun qui est le russe. D'autre part, Malkas, leur garçon de 16 ans, s'entend bien avec nous, il apprend le piano avec Bénédicte, c'est un garçon qui a la foi, et avec qui nous partageons pas mal, qui suit les enseignements en semaine, que je donne, et il est venu là pour toute la semaine, jusque lundi prochain. Voilà, durant le week-end vont arriver une famille des Vosges avec 5 enfants et une amie de Paris. Nous avons la place pour loger tout ce monde-là. Par la suite, quand ces personnes seront reparties, il viendra un couple de l'Allier du milieu de la France. Pour 2 semaines, minimum. Bon, maintenant, une nouveauté, c'est que du fait de nos 3 filles qui sont capables d'enseigner, qui ont les diplômes, Noémie ne l'a pas tout à fait, mais bon, ses résultats sont vraiment probants à l'école normale, et elle a appris la technique d'apprentissage de la langue française à des gens qui n'ont aucune base. Donc, français, langue étrangère, qu'on appelle ça, le FLE. Eh bien, voilà, il faut que toute la semaine, maintenant, la salle de culte, il y ait 2 grandes tables, et il va venir plein d'Ukrainiens de la région qui sont logés à droite et gauche, et ils vont apprendre le français avec Noémie, et nos filles, Véronique et Bénédicte, vont se partager le travail avec les enfants. Bénédicte, à certains moments, viendra dans la salle de culte. Ben, on a un avantage, c'est que sur notre salle de culte, il n'y a pas de statue, il n'y a pas de croix, il n'y a rien, il n'y a pas de signe extérieur, donc les personnes ne sont pas obligées de se sentir coincées par quelque chose de religieux. Donc voilà, nous avions avant les vacances de Pâques 19 élèves. Eh bien, ça passe, on passe à 22 lundi, et puis d'autres vont arriver, et donc il va falloir en être 15 à 20 dans salle de culte et une bonne douzaine dans les locaux habituels de l'école. Vous voyez à quel point les choses changent. Et le Seigneur a donné un grand cœur et des compétences à nos trois filles et une grande foi pour servir les autres, puisqu'elles le font gratuitement, elles ne sont pas payées. Pensez à cela, elles ne sont pas payées. Véronique a son casse-croûte de son mari, qui est ingénieur docteur et qui est professeur à Pierre-Art et à Arlon, Enalux. Et Bénédicte donne des cours de piano après journée. Et le samedi, elle a 26 élèves pour avoir des lois sociales. Donc Bénédicte a deux emplois, un emploi gratuit, un emploi payant, pour gagner à peu près 1100 euros, 1200 euros par mois. Mais tout cela, c'est exigeant. Et Noémie, elle s'engage dans une filière du même genre, sans doute, par la foi. Nous sommes heureux de voir nos trois filles prendre le même chemin que Marie-Hélène et moi. Et donc, c'est la merveille de la foi, la merveille de se donner, de courir des risques. C'est des risques vraiment bénis par le Seigneur. Je vous demande de prier pour l'Ukraine. C'est très dur là-bas. L'agression de ce pays est très forte, très puissante. Je vous demande de prier pour le Pakistan où nous avons des enfants. Nous avons aidé à la création d'une école d'une centaine d'enfants. Et tout cela mérite de la part de tout le monde, au moins la prière. Au moins la prière. Au moins la prière. Et plus, si certains ont le moyen. Donc, Dieu vous bénisse. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, je me confie en toi. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Donc, je suis dans la chambre de nouveau, coincé dans la chambre, parce qu'il y a du monde partout dans la maison. Voilà. Et donc, il est clair que nous allons aborder un sujet qui est un petit peu spécial. C'est le dialogue avec les morts. J'ai rencontré des personnes qui dialoguaient avec les morts, souvent. Un homme un jour est venu du nord de l'Alsace, à la frontière allemande de Wissembourg, me trouver, avec sa fille de 29 ans, divorcée, complètement malade mentale, super malade mentale, et d'une intelligence phénoménale. Et elle avait un petit garçon que la justice l'avait repris. Et cet homme est arrivé à la maison parce qu'il voulait que je prie pour sa fille. Il pensait qu'elle avait des démons. Effectivement, il ne s'est pas trompé. Mais ce qu'il y a, c'est que, je résume l'affaire, c'est que cet homme parlait avec les morts de sa famille depuis des années. Et cet homme a ouvert la porte à des désastres dans la vie de ses enfants, dans la vie de sa femme, de tout le monde et dans sa propre vie, par son dialogue avec les morts. Parler avec les morts ou les écouter, c'est être en communication avec le monde des ténèbres, le monde du malin. Et donc, cet homme n'en pouvait plus et il avait dans ses visions de nuit, il avait une voix qui lui disait, va voir le prêtre, va voir le prêtre, en Belgique. Et pratiquement, il avait ça depuis des mois et des mois dans la tête, quand un jour, un homme se promène, un vieux monsieur, dans la forêt. C'était un marchand de bois, ce monsieur, hein. Donc, un vieux monsieur, un pasteur retraité, il se promenait, et monsieur Marcel lui confie son problème et lui dit, je cherche un prêtre en Belgique pour que ma fille soit guérie. Il rentre à la maison, il explique ça à sa femme et elle dit, mais notre fils Philippe a un ami qui est pasteur et qui a été prêtre. C'est peut-être lui. Donne-lui le numéro, l'adresse et tout. Et donc ce monsieur Marcel, je ne dirai pas le nom de famille, est arrivé chez nous avec sa fille. Et quand la fille m'a vu, elle dit, c'est mon père qui est malade, c'est pas moi. Elle n'avait pas tout à fait tort. Le père, en communiquant avec les morts, avait amené le désastre dans la vie morale, mentale de sa fille et de bien, bien des malheurs se passaient dans la famille. Je lui ai demandé d'arrêter, je lui ai demandé de stopper et de seulement prier Dieu, notre Dieu des cieux, notre Père du ciel, au nom de Jésus. Comme Jésus l'a demandé dans Jean chapitre 14 et chapitre 16. Il n'a pas voulu. Et pour se donner bonne conscience, il m'a donné 500 euros. Comme j'avais pas mal de réfugiés à la maison, j'ai pris 500 euros. Mais c'est de l'argent, un peu comme Judas donnait de l'argent. Il jetait l'argent dans le temple. On achetait le champ du potier avec l'argent. C'est de l'argent sale. C'est de l'argent de quelqu'un qui n'a pas voulu changer son cœur, qui n'a pas voulu changer ses opinions, sa façon d'être devant Dieu. Je suis habitué à ça. Il y a des gens qui donnent de l'argent et qui sont humbles et au service de Dieu. Et puis il y en a d'autres, ils se débarrassent de Dieu de cette manière-là. C'est une façon d'expier quelque chose, une faute qu'ils ne veulent pas régler. Alors, je suis allé plus tard voir plusieurs personnes en Alsace qui avaient des problèmes semblables et j'ai logé chez ces personnes. Et finalement, les parents ont dû comprendre que c'était leur fille qui faisait des réunions à l'université et qui soulevait les tables. Et la fille devant nous se rigolait à gorge déployée en disant, j'ai invoqué les esprits, une table a coincé une de mes copines contre le mur à la gorge, elle hurlait, hurlait, et elle allait mourir. Et la fille riait. Et donc les parents ont compris et ont dit de commun accord, unanimement, notre fille est sorcière, tu es une sorcière. Et je leur ai dit, mais il faut savoir que elle est peut-être sorcière, elle a peut-être des pouvoirs, alors qu'elle n'est rien du tout, elle est l'objet de Satan, mais vous avez ouvert la porte à Satan pour qu'elle devienne comme ça. Donc je vous mets en garde d'avoir des communications avec les morts, parce que ça aura une retombée, ça a une retombée sur vos enfants, sur vous-même. Nous avons dans notre région des gens qui sont très attachés à Notre-Dame de la Salette. C'est Marie, qui semble-t-il était apparue dans des montagnes, la Salette. Et donc un prêtre de la Tour a un jour créé une chapelle et un culte à Notre-Dame de la Salette à la Tour. Et les personnes qui vont là sont toute une série de personnes qui, chaque fois qu'elles me voient, n'arrivent pas à me dire bonjour, sont hostiles, alors que je dis toujours bonjour. Et elles se disent chrétiennes. C'est assez anormal de voir que des personnes qui se disent chrétiennes ne supportent pas quelqu'un qui est dans la Bible, dans la parole de Dieu. Il y a une espèce d'opposition, une espèce de contradiction, mais ils ne veulent pas la régler. Et ils ont toujours leur statut, leur culte, leur chapelet, leur neuvaine, etc., au mois de mai. Que voulez-vous? Nous ne pouvons pas obliger la conscience des personnes à changer. Simplement, si quelqu'un veut être réaliste, qu'il regarde à son comportement, qu'il regarde aux effets il verra qu'un pommier donne des pommes, et un pommier ne donne pas des épines. Chez certains, c'est une croyance, c'est un credo de parler avec les morts. Ça leur paraît vital. Ça leur donne un sens à la vie. Ça existe chez les bouddhistes, le livre des morts. Ça existe dans un certain milieu protestant. Ça existe dans le catholicisme. Ça existe chez les vaudous au Bénin, en Afrique, à Haïti. Ça existe un peu partout, même dans les religions du Nord, de la Walkirie. Pourquoi est-ce qu'il en est ainsi? Simplement pour faire le contraire de ce que Dieu a demandé. C'est ça le but. Simplement. Dans Lévitique, au chapitre 19, verset 31, Dieu demande qu'on ne parle pas avec les morts. Lévitique, chapitre 19, verset 31. Dans le Deutéronome, au chapitre 18, verset 9, Dieu demande qu'on ne fréquente même pas ceux qui vont voir les morts, ceux qui parlent avec les morts, ceux qui vont voir les magiciens, vont voir ceux qui lisent la ligne de main, la boule de cristal, etc. Donc, ceux qui y vont, il faudrait même pas les fréquenter. Pourquoi? Parce qu'il y a une retombée, je dis pas radioactive, mais une retombée spirituelle, quand on fréquente de manière fragile, de manière quasiment stupide, je dirais vulnérable, de telle personne. Dieu a demandé de ne pas fréquenter ces personnes qui parlent avec les morts. Bon, dans mon ministère, forcément, moi, je suis obligé de le faire. Mais combien de temps je dois passer dans la prière pour résister aux attaques après qui arrivent dans mon mental, qui arrivent dans mon âme? Il n'est pas étonnant parfois de se lever à 3 heures du matin pour prier, alors que tout le monde dort. Pourquoi? Parce que le ministère contre l'adversité, contre les ténèbres, le ministère ne se passe pas d'un combat dans la prière. La prière, c'est la requête que Dieu me garde mon esprit saint, S-A-I-N, propre, stable, et que le Seigneur soit avec moi dans le contact avec ces personnes. Donc, je suis un mendiant. Serviteur mendiant, afin de pouvoir aider des personnes qui se trompent de chemin. Mais par moi-même, je ne peux pas le faire. C'est avec l'aide de Dieu. Et donc, vous-même, si vous voulez aider quelqu'un, sachez bien que c'est redoutable. Si vous n'avez pas ce ministère, parlez-en à quelqu'un qui a le ministère d'affronter ces ténèbres. Mais ne jouez pas au kamikaze avec ce genre de problème. Que dit la parole de Dieu dans Deutéronome chapitre 6, verset 5? Elle dit, tout homme vivra de la parole sortie de la bouche de Dieu. Tout homme vit de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et évidemment, nous retrouvons ce verset dans Matthieu chapitre 4, verset 3, quand Jésus répond à Satan, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais l'homme vit de la parole de Dieu. En référence à Deutéronome chapitre 6, verset 5. Chers amis, nul doute, Jésus a toujours répondu à Satan avec des versets de la Bible. Il a toujours confronté Satan à l'autorité de la Bible. Lisez Matthieu chapitre 4. Donc, nous-mêmes, nous devons prendre autorité dans notre vie contre les assauts spirituels en lisant la parole de Dieu de manière régulière et fidèle. Pour ne pas nous adonner à des choses anormales. Je suis né dans une famille où on pratiquait la radiesthésie. Grand-père, mon père, où ils ont eu de graves problèmes. J'ai dû comprendre que cette radiesthésie m'ouvrait à la voyance. En voyant les lignes des mains, en voyant toutes sortes de choses. Les dons spirituels de Satan sont nombreux. Et pourquoi est-ce que Satan fait cela? pour séduire l'homme et pour le perdre. Prenons Genèse, chapitre 3. Genèse chapitre 3, Satan dit ceci à Ève, comme il le dit encore aujourd'hui à tout le monde. Dieu sait que le jour où vous mangerez du fruit du bien et du mal, de l'arbre du bien et du mal, c'est-à-dire que vous voudrez faire le bien et le mal, vous êtes maître de votre vie, vous n'êtes pas soumis à Dieu, c'est vous qui êtes dans votre libre arbitre. Vous gérez le bien et le mal. Grave présomption. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon, à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, elle en mangea, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ils connurent quoi? Oui, ils connaissaient le bien et le mal, mais ils ont connu la pauvreté mentale et spirituelle. Ils ont connu l'échec spirituel. Ils étaient nus. Si vous vous adonnez à des choses qui sont de l'ordre de la voyance, de l'ordre du dialogue avec les morts, nous en donner à des choses comme la radiesthésie, l'hypnotisme, etc. Les énergies positives, les pierres astrales, etc. Vous finirez de la même façon. Vous découvrirez que vous avez perdu votre vie. Tôt ou tard, vous le découvrirez. Et que vous êtes séparés de Dieu. Ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Le propre de l'homme qui se donne à tous ses arts divinatoires, comme on les appelle, c'est de s'éloigner de Dieu, de s'en cacher. Pourquoi? Jésus le dit dans l'épître de Jean, il refuse la lumière de peur que leurs œuvres mauvaises ne soient dévoilées. Ils ne viennent pas à la lumière, ils ne viennent pas à Christ, de peur que leurs œuvres mauvaises soient dévoilées. Donc la peur fait partie du comportement de celui qui est dans les arts occultes. L'incertitude, et ensuite, bien sûr, tous les autres péchés. Impureté, mensonge, endurcissement, accusation, division, séduction, haine. Tous les arts de Satan viennent les uns après les autres en cascade, dès qu'on a trempé les mains et l'âme là-dedans. Que dit la psychiatrie? La psychiatrie dit que quelqu'un qui a une vision, qui entend des voix, qui parle avec les morts, ou qui a vu Marie, qui a vu un saint, etc., qui a vu le ciel, c'est simplement une hormone, c'est simplement de la chimie. C'est une hormone dans le cerveau qui dégage ce phénomène. Et il n'y a pas, en fait, de révélation. Il y a simplement un phénomène chimique. Et c'est psychique, au sens chimique. Donc, il n'y a rien au-delà de l'humain. Pour la psychiatrie moderne. Maintenant, il y a un autre contexte. Il y a les gens qui entendent des voix et qui ont des bonnes voix et des mauvaises voix. Des voix qui disent « assassine un tel » ou « tue-toi, jette-toi du pont, jette-toi sur le train », etc. Et qui sont déchirés entre deux moi. C'est ce qu'on appelle la schizophrénie. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Dans le temps, on mettait une camisole de force, on enfermait la personne dans une pièce madelassée, avec plusieurs verrous à la porte. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait des piqûres dans les fesses, on donne des médicaments, et la personne est comme un zombie. La psychiatrie ne résout pas les maladies de l'âme. Elle les calme. Elle n'arrive pas à les soigner. Nous allons prendre maintenant différents textes. Marc chapitre 3, verset 11. Marc chapitre 3, verset 11. Donc Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain. Jésus a été authentifié par la descente de la colombe du Saint-Esprit sur lui. Jean-Baptiste l'a reconnu comme le Messie et il l'a affirmé à tous que c'était l'agneau de Dieu qui venait pour ôter le péché du monde. Et puis Jésus va dans les synagogues et prêche. Synagogue de Capernaum, synagogue de Nazareth. Là se déroule tout à fait le début de son ministère. Marc chapitre 3, verset 11. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu ». Mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Donc ce sont des humains, ce sont des personnes qui proclament devant tout le monde que Jésus est le Fils de Dieu. Et ce sont des gens possédés par Satan, par des démons. Et Jésus leur dit de se taire, ils n'ont pas le droit de le faire connaître comme Fils de Dieu. Regardons dans Marc chapitre 1, versets 21 à 27. Il se rendit à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue, donc la maison du rassemblement, la réunion, et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, donc de son enseignement, comme venant de Dieu, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Exousia, autorité. Une parole vraiment, ça pesait. Les gens savaient que ça venait de Dieu. C'était pas du bidon, des paroles humaines. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Dans le ministère, ce genre de choses m'est arrivé une fois. Une fois. De voir quelqu'un qui se roulait par terre, j'étais en train de prier, calmement à côté, en silence. Une jeune femme qu'on avait classée épileptique, et qui ne l'était pas en fait. Mais l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence, en poussant un grand cri. Donc, le démon sait qu'il est perdu, sait qu'il va aller en enfer. Tu es venu pour nous perdre. Et le démon connaît Jésus-Christ. Alors que l'entourage alentour de lui, les gens qui sont incrédules, qui n'ont pas beaucoup de connaissances, ne comprennent pas qui est Jésus. Simplement, ils prennent Jésus pour un prophète. Ils prennent Jésus pour le fils du menuisier Joseph de Nazareth. Alors, tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine, donc un nouvel enseignement. Il commente avec autorité, c'est-à-dire comme venant de Dieu, même aux esprits impurs, donc aux démons, et ils obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Vous voulez avoir une autorité sur les esprits impurs à travers... Il y a des gens qui travaillent avec vous. Il y a des gens que vous rencontrez dans les magasins. Il y a des gens que vous rencontrez parfois même dans l'église qui s'asseyent là, qui ne sont pas convertis, qui paraissent convertis. Et ils sont habités d'esprits impurs. Que faire? Si vous avez pris le temps suffisamment de prier et d'être en présence du Seigneur, Le fait que vous êtes dans le Seigneur et que vous avez passé du temps dans la prière provoque une réaction chez ces personnes. Provoque une réaction. La réaction est claire. L'hostilité. Si vous êtes un chrétien qui ne prie pas, qui ne lit pas la parole de Dieu, la réaction est nulle. Il n'y a pas d'hostilité. Vous ne dérangez même pas vos voisins et surtout pas les esprits impurs. Donc la vie en Christ, la vie, la communion avec Christ est une arme redoutable contre les démons. Et une arme redoutable pour résister à la tentation de parler avec les morts ou de tomber dans des systèmes occultes. Quand j'étais catholique, prêtre, je pensais que la radiesthésie était un don de Dieu et c'était utile. Mais le jour que j'ai vu, en regardant les mains de quelqu'un, que je pouvais lire le passé, le présent et le futur, et que je devenais obscène dans mes pensées vis-à-vis d'une femme, je me suis rendu compte que cette radiesthésie était l'introduction, la salle d'attente de mon enfer à moi. Et j'ai tout arrêté au nom de Jésus. Regardons dans Marc chapitre 1, le verset 33 et 34. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies, il chassa aussi beaucoup de démons, et il ne permettait pas aux démons de parler, parce qu'ils le connaissaient. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, tous te cherchent. Il leur répondit, allons ailleurs dans les bourgades voisines afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Et il alla prêcher dans les synagogues, c'est-à-dire dans les lieux de prière, partout de la Galilée, et il chassa les démons. Donc, dans toutes ces réunions de prière, il y avait des gens possédés. Comme un jour, un vieux pasteur m'a dit, le péché vient se cacher dans les églises. Un vieux pasteur. Eh bien, j'ai appris à être prudent en visitant les églises. J'ai appris à être prudent même dans notre église. Prenons la première aux Corinthiens, au chapitre 15, verset 3. Première aux Corinthiens, chapitre 15, verset 3. Je vais commencer au verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile, donc la bonne nouvelle, que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, par laquelle vous êtes sauvés. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné, en priorité, comme je l'avais reçu aussi, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Il a apparu à Céphas, donc Pierre, puis aux 12. Ensuite, il a apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Il a apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu aussi à moi comme à l'avorton. Que se passe-t-il? L'essentiel du message, c'est Jésus mort pour nos péchés et ressuscité. C'est le plus grave échec de Satan. Et c'est le noyau de la foi chrétienne. Le noyau de la foi chrétienne. C'est quand même redoutable qu'un de mes collègues à l'entreprise, après plusieurs années de bon travail ensemble, vienne avec sa femme un dimanche et me dise, Jean, si vous croyez encore votre femme et vous dans la résurrection de Jésus-Christ, je vous quitte. Nous ne renoncerons pas à Jésus-Christ ressuscité. Ma femme et moi, nous avons répondu ça. Et il est parti. Et la vie, ma vie heureuse dans l'entreprise a commencé à décliner et pratiquement les problèmes sont arrivés. Pourquoi cet homme était-il opposé à la résurrection de Jésus? Alors qu'il gagnait bien sa vie, qu'il avait une place prospère, est ingénieur, c'est lui qui tenait le bureau et les affaires de l'entreprise. Vous voyez à quel point Satan est venu me mettre une torpille en pleine figure. C'est pour vous dire, chers amis, que ce qui dérange le plus Satan, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Ce ne sont pas les bigoteries. C'est ça. C'est ça l'essentiel que Dieu veut pour nous. Et c'est ça qui brise Satan. Première aux Corinthiens, chapitre 3, verset 16. Chapitre 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. C'est-à-dire qu'il croit dans la mort et la résurrection de Jésus. Et pour devenir sage, c'est-à-dire obéissant à Dieu. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse, et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, même morts. Même morts. Un saint, une sainte, etc. Et encore plus quand ils sont vivants. Au chapitre 12, verset 3. 1 Corinthiens 12, verset 3. Je vous déclare que personne, s'il est habité du Saint-Esprit et qu'il parle par le Saint-Esprit, ne dit Jésus est séparé de Dieu. Jésus est fou. Jésus est un envoyé de Satan. Personne qui est habité par l'Esprit Saint ne dit ça. Mais vous pourriez me dire, alors, ceux qui étaient dans la synagogue, là tout à l'heure, on a lu dans Marc, au chapitre 1 et chapitre 3, la même chose dans Matthieu, vous savez. Ben alors, ils ont dit que Jésus était saint, etc. Ils n'ont pas dit que Jésus était mauvais. Pourquoi Jésus les chasse s'ils disent... Ils ont dit à Jésus qu'il était saint, qu'il était le Fils de Dieu. Eh bien, écoutez la suite du verset. Que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur, donc est Dieu, si ce n'est par le Saint-Esprit. Donc, l'Esprit Saint nous autorise à confesser la nature divine de Jésus. L'Esprit Saint nous autorise à louer le Seigneur. Si nous avons reçu l'Esprit Saint, nous pouvons confesser Jésus, sa royauté, sa majesté, sa divinité, sa bonté. Et si nous n'avons pas reçu l'Esprit Saint, il faut se taire. Nous n'avons pas le droit encore dans une assemblée, si nous ne sommes pas nés de nouveau, si nous n'avons pas été régénérés, transformés par le don du Saint-Esprit, nous devons nous taire et surtout pas proclamer la Seigneurie de Jésus. Cela peut nous coûter cher, ça peut devenir un acte de divination, un acte de tromperie dans une église. Comprenez bien, il n'y a que ceux qui sont nés de nouveau qui peuvent dire Jésus est Seigneur. Je relis ce verset, c'est quand même assez fort de ce que je vous explique là, mais c'est comme ça, c'est la réalité. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, c'est-à-dire hors de Dieu, fou, démoniaque. Et personne ne peut dire Jésus est Dieu, Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. La condition sine qua non pour confesser la divinité de Jésus, sa seigneurie, sa résurrection, c'est d'être habité par le Saint-Esprit. C'est d'avoir la marque qui nous authentifie devant Dieu, le label, le don du Saint-Esprit. Chers amis, donc, dans une église où on manifeste par des chants, par des paroles, des louanges à Dieu, à Jésus, sans être habité par le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui est désagréable à Dieu et qui ne lui plaît pas du tout. Il faut passer par la nouvelle naissance, il faut passer par le don du Saint-Esprit pour avoir l'autorisation et la compétence, la capacité de dire Jésus est Seigneur. C'est quand même assez rigoureux. C'est la base du christianisme au début, au premier siècle. Et maintenant, on ramasse n'importe quoi parfois. Quoique, j'ai reçu une revue dans la semaine d'une réunion pour jeunes, jeunes gens, jeunes filles, de JPC, Jeunesse pour Christ. Mais c'est tout en bas, tout petit, JPC. C'est super minuscule. Il y a de ça 10-15 ans, ça aurait été écrit en grand. Jeunesse pour Christ. On voit deux jeunes filles, puis on voit plusieurs pages. On invite à des réunions, très agréables, etc. Pas un seul verset biblique. Pas le nom du Seigneur. Église d'Éphèse. Ce mouvement a perdu l'amour de Christ. Église d'Éphèse. On est juste à ses propres yeux. Quel drame, mes amis. Mais c'est encore mieux de ne pas dire Jésus est Seigneur si on n'est pas né de nouveau. Ça, je vais dire que, heureusement. Deuxième aux Corinthiens, chapitre 2. Deuxième aux Corinthiens, chapitre 2. Verset 17. Deuxième aux Corinthiens, chapitre 2, verset 17. Nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Nous parlons en Christ devant Dieu. Donc, en communion, dans une relation de plein amour, de consécration à Christ, d'une réunion entre Christ et nous, scellée par le Saint-Esprit, nous pouvons parler. C'est ça que ça veut dire. Je relis le verset. Nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, qui ne sont pas nés de nouveau, qui ramagent à propos de Jésus. Mais c'est avec sincérité, c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. C'est de la part de Dieu, donc la part du Saint-Esprit, que nous parlons en Christ de Dieu. Ça revient au même que ce que je viens de vous lire avant, dans le premier aux Corinthiens. Voyons au chapitre 10, versets 3 à 5. Deuxième aux Corinthiens, chapitre 10, versets 3 à 5. Si nous marchons dans l'humain, dans la chair, nous ne combattons cependant pas selon l'humain, selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, humaines. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu, c'est-à-dire par la personne même de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Chers amis, c'est les élections en France. Il y a un double choix. Marine Le Pen ou M. Macron. Mais c'est la même chose dans d'autres pays, peu importe les noms, peu importe les personnes. Pour un chrétien, qui choisir? Qui choisir, chers amis? À un certain moment, dans l'Empire romain, il y a des généraux qui se sont disputés. Octave, Pompée, etc. D'autres. Et une partie de l'Empire romain tenait avec l'un, et une partie de l'Empire romain tenait avec l'autre. Une partie de l'armée avec l'un et avec l'autre. Est-ce que nous allons diviser l'Église? Est-ce que nous allons diviser les chrétiens pour des affaires d'hommes? Pour des affaires de généraux ou de présidents? Est-ce que nous allons perdre l'essentiel, chers amis? Notre président, c'est Jésus-Christ. C'est celui qui préside à notre vie spirituelle, à notre vie éternelle. Ne l'oubliez jamais, les amis. Ne regardez pas trop la télévision. Ne vous laissez pas remplir, envahir, submerger par ce monde. N'aimez ni le monde, ni l'orgueil de la vie. N'est-ce pas? C'est Jean qui le dit dans son épître. Prenez distance, chers amis, et restez tout près du Seigneur. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Tant que Jésus ne revient pas, vous ne pourrez pas briser par vous-même. Vous ne pourrez pas changer le devenir de ce monde. Il nous faut des armes puissantes pour renverser les forteresses. Il nous faut des armes puissantes pour renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Il nous faut des armes puissantes pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Quelles sont nos armes puissantes? La prière. Autant qu'il le faut, c'est-à-dire des heures. La parole de Dieu. Autant qu'il le faut, des heures. La consécration à Christ est la seule puissance que nous avons. Et Jésus l'a dit à Paul, c'est dans ta faiblesse que je me glorifierai, ma grâce te suffit. Nous sommes dans une période difficile de l'humanité, comme il y en a toujours eu, il y a toujours eu des périodes difficiles. Ne nous laissons pas attraper par les discours des humains, quels qu'ils soient. Regardons à Christ. Deuxième aux Corinthiens, chapitre 13, verset 8. Chapitre 13, verset 8. Nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous ne pouvons pas nous opposer à Christ. Nous ne pouvons pas nous opposer à Dieu. Nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Dieu est Dieu. Nous ne sommes que des humains. Nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Nous n'avons de force que si nous sommes adhérents, unis à la vérité, c'est-à-dire à Jésus-Christ. Nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles. Et c'est le cas de le dire, nous sommes très faibles actuellement en Occident et dans le monde entier, nous, les chrétiens nés de nouveau. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts. Et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. Verset 11. Soyez dans la joie. Perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Chers amis, dans des périodes d'élection comme aujourd'hui, se passe en France, où on va chauffer les esprits, n'oubliez jamais les versets qu'il y a ici. Deuxième aux Corinthiens, chapitre 13, versets 11 à 13. Dans le deuxième aux Corinthiens, chapitre 5, verset 19. Verset 19. Verset 14. L'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Donc si Jésus est mort pour nous sur la croix, nous, chrétiens, dans notre vieille nature, nous sommes tous morts. Nous avons été crucifiés au moment où il a été crucifié. Et notre péché a été brisé, crucifié. Et qu'est-ce qu'il est dit? L'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais qu'ils vivent pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Qu'ils vivent pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon l'humain. Et si nous avons connu Christ au plan humain, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, donc uni, transformé, le péché crucifié. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Jésus-Christ, réconciliant le monde avec lui-même, et n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Je vais vous dire, il arrive de souffrir terriblement. Il y a des contradictions dans ma famille, il y a des contradictions dans la région qui me font beaucoup souffrir et qui m'atteignent profondément. Je me suis relevé à 3 heures. Il m'a fallu 2 heures dans la prière, 2 heures pour avoir la paix, pour être réconcilié, pour avoir la paix, pour être uni, vraiment uni à Jésus. Je n'arrivais plus à m'accrocher à lui. Chers amis, je sais que la vie chrétienne n'est pas simple. Il faut l'aimer par-dessus tout. Et il faut chercher la communion avec Jésus. Et parfois c'est une bataille au milieu de nous. Lutte au dehors, crainte au dedans, comme dit un chant évangélique. Et c'est ça. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Justice de Dieu, c'est-à-dire pardonner nos péchés, et puis rendu saint par lui, et rendu obéissant par lui. Deuxième aux Corinthiens, chapitre 11, verset 1. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Oui, supportez-moi. Vous vous rendez compte à quel point il supplie les chrétiens de le supporter. Parce qu'à un moment donné, cette église qu'il avait fondée le détestait. Croyez-vous que c'est possible? Oui, j'étais à l'enterrement d'un pasteur il y a 8 jours. Eh bien, à la fin de sa carrière, il a dû quitter l'église où il était. Dans de grandes souffrances, il ne s'en est jamais plaint, mais je l'ai appris lors d'un enterrement par d'autres. Et je connais un autre pasteur qui est dans le même cas. Combien de pasteurs ont fondé une église et vers la fin de leur existence, de leur ministère, ils se font comme lapidés, torchés. C'est assez bizarre. Comme leur Seigneur Jésus, comme le Seigneur, nous participons à sa gloire et à ses souffrances. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais oui, supportez-moi, car je suis jaloux, d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Vous voyez, c'est cette âme de pasteur, cette âme d'évangéliste, c'est de préparer un mariage. C'est de préparer un mariage qui réussisse. C'est de préparer les chrétiens qu'il a connus à Corinthe, leur préparer le mariage, les noces de l'agneau, leur préparer pour que ça réussisse, pour que cette église soit pure, soit fidèle, consacrée à son époux le jour qu'il va venir. Quelle est ma passion? C'est la même chose. Soyez purs et soyez prêts pour votre mariage. Vous êtes fiancés à Christ. Faut-il être prêt pour le jour de la grande cérémonie, des grandes noces de l'agneau? Il peut arriver que dans nos assemblées, des hommes trompeurs s'introduisent, des petits filous, des escrocs, qui portent le nom de Jésus, qui portent le nom de même un baptême. Ça m'est déjà arrivé, ça a été très dur à vivre, parce qu'on ne peut pas employer des moyens violents, évidemment. Alors, je vous lis ceci. Au chapitre 11, verset 13, ces hommes-là, des femmes, ce sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Jésus-Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres de Satan aussi se déguisent en ministres, en serviteurs de sainteté. Leur fin sera selon leurs œuvres. Oh, chers amis, chers amis, soyez prudents. Les temps sont courts, Jésus est bientôt là. Et Satan est très rusé. Ayez du discernement. Ayez du discernement. Priez et méditez la parole de Dieu. Ayez, demandez à Dieu le discernement. Ni or, ni argent, mais le discernement et la fidélité. Et cessez d'écouter les hommes, écoutez le Seigneur. On peut aimer les hommes et les respecter, mais les écouter et leur accorder l'audience et se faire gagner par eux, non. Notre seul Maître et Seigneur, c'est Jésus-Christ. Alléluia. À mercredi.